japonais connaît bien la Russie, aime beaucoup la Russie. Elle va nous parler ce soir de Staline, dont l'ascension, nous dit-elle, est une énigme. Je lui laisse le soin de nous en parler.
Bien, les historiens qui ont étudié la biographie de Staline ont tous été d'accord pour reconnaître que c'est un fait hors du commun, un fait unique que cette ascension, l'ascension d'un serf, un fils de serf, parvenu au sommet de la gloire. Alors les uns disent c'est inexplicable, c'est une énigme. Il s'agit bien d'abord de savoir quel sens il donne au mot énigme. Pour certains, une énigme, eh bien, c'est quelque chose d'inexplicable. Et pour beaucoup de gens, c'est ainsi. Or, si on remonte à l'origine de ce mot, c'est un mot d'origine grecque et latine, mais énigme, ça voulait dire plutôt une chose à deviner. Mais oui, à deviner. Et à certains moments de notre histoire, par exemple au XVIIe siècle, les énigmes étaient très à la mode, mais elles avaient le sens de devinette. Donc maintenant, nous allons voir si vraiment c'est explicable ou ça ne l'est pas, quel que soit le sens que l'on pourra donner à ce mot énigme. Pour ceux qui pensent que cette ascension est inexplicable, eh bien, c'est d'abord le fait que Staline est un fils de serf. On sait qu'un fils de serf avait toutes les peines du monde pour s'insérer dans la société, surtout s'il n'avait pas de qualification. Et le père de Staline était cordonnier, petit cordonnier, qui connut la misère, toutes les difficultés possibles et imaginables, et finit par s'adonner à la boisson. Ceux qui trouvent que c'est inexplicable s'appuient aussi sur ce fait que dans la vie de Staline, il y a de longues périodes qui sont très obscures. On ne sait pas ce qui s'est passé durant ces périodes. Par exemple, entre 1907, date du Congrès de Londres, à 1917, date de la Grande Révolution d'octobre, eh bien, 10 ans se sont écoulés, et en 10 années, il y en a eu 7 qui ont été passés dans la clandestinité. On sait bien ce qui se passe quand on est clandestin, mais enfin, il n'y a pas eu un programme politique bien défini. Enfin, ceux qui pensent que c'est inexplicable, ce sont ceux qui, très certainement, se basent sur des jugements qui ont été portés sur Staline, en particulier Trotsky. Trotsky était un grand ennemi de Staline, d'ailleurs, on peut dire que c'était réciproque. Et Trotsky a porté des renseignements, mais très, 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 on peut dire, hostile même. Par exemple, il a dit que c'était un homme sans imagination, dont la langue était indigente, il était lourd. Et dans sa vie même, parce que Trotsky a écrit sa vie, il a affirmé que c'était la plus haute médiocrité du parti bolchevique. Alors on se demande comment cet homme alors a pu atteindre le sommet de la gloire. Alors nous allons suivre ce parcours depuis la naissance de Staline, et bien jusqu'au moment où il a atteint le sommet de la gloire, c'est-à-dire en 1924. C'était un fils de serf. Quand on pense aux serfs, généralement, on ne pense pas à des catégories de serfs qui étaient favorisées, quand même, il y en a eu. Il y avait des serfs très cultivés. Par exemple, le comte de Cheremetiev avait des centaines de serfs. Et parmi ces serfs, il y avait des érudits. Il a eu un serf, par exemple, architecte, qui a fait des merveilles. Il faut visiter le palais de Kuskovo. Des merveilles. Il a eu aussi, elle lui appartenait, une troupe théâtrale. Et il voulait faire de cette troupe la plus brillante troupe théâtrale de Russie. Et ainsi donc, il y avait des serfs qui ne devaient pas être tellement malheureux quand même. puisqu'ils pouvaient, ils pouvaient travailler un art pour lequel ils avaient des dispositions. Quand on parle des Serbes, eh bien, on pense toujours, inévitablement, à la masse des Serbes, ces millions de Serbes, presque tous analphabètes, qui appartenaient à des seigneurs, à des gros propriétaires fonciers, presque tous des analphabètes, et qu'on achetait et qu'on vendait. Hein. Tellement bien que les mêmes membres d'une famille étaient dispersés quand on procédait à des ventes. Eh bien, les Serbes, que ce soit en Russie, que ce soit en Géorgie, étaient réellement malheureux dans l'ensemble. L'affranchissement des Serbes a eu lieu pour, en Russie en 1861. Mais en Géorgie, ce ne fut pas de même. En Géorgie, l'affranchissement a eu lieu à partir de 1863 et il s'est effectué très lentement. Tous les Serbes n'ont pas été affranchis d'un coup comme en Russie. Non. Chaque année, il y en avait un certain nombre qui étaient affranchis. Et les derniers qui ont été affranchis l'ont été en 1913. Donc, il a fallu 50 ans en Géorgie pour que tous les Serbes fussent affranchis. Et le père de Staline a été affranchi, lui, en 1865, donc 2 ans après le début. Il a été même favorisé. Mais il était jeune. Il a appris le métier de cordonnier, il fallait apprendre quelque chose. Et il s'est établi en 1875 à Gori. Il s'est marié avec une jeune géorgienne, elle n'avait que 15 ans. Et elle était, elle aussi, fille de Serbe. Ils se sont installés donc à Gori. Ils n'avaient pour logement qu'une chambre mal éclairée, par une fenêtre très étroite. Et puis le sol était fait de briques nues, au même niveau que le sol de la cour. Et quand il faisait mauvais temps, quand il pleuvait, bien, la pluie envahissait l'eau et puis la boue envahissait la chambre. C'est dans cette chambre que sont venus au monde les 3 premiers enfants. Et les naissances se sont suivies de près. Ils sont nés en 1876, 1877, 1878. Et les 3 sont morts dès les premiers jours de leur existence. Mais la mortalité infantile, bon, c'était un fait très banal. Et dans toute l'Europe. Si, par exemple, dans les frères Karamazov de Dostoïevski, il y a une page assez poignante. Il s'agit d'une jeune paysanne qui a fait des kilomètres pour venir voir le Starets. Le Starets, c'est le grand abbé d'un monastère. Elle ne peut pas se résigner. Elle ne peut pas. Elle a perdu 4 enfants la suite. Et elle ne peut pas. Elle voulait absolument s'attacher le dernier, le petit, là, celui-là qu'on a tant aimé, mais il est parti aussi. Et elle fait cette réflexion poignante, elle dit, les enfants chez nous ne restent pas. Vous voyez, eh bien, le ménage des Djougachvili aurait pu dire de même. Après en avoir perdu 3, ils auraient pu dire, les enfants ne restent pas chez nous. Mais voilà le 4e qui arrive. Alors celui-là, en 1879, et c'est un enfant robuste, oh, celui-là, il voudra vivre. Il est très robuste. Il a bien 2 maladies durant sa première enfance. Il a eu la petite vérole, qui lui a laissé un visage un peu grêlé, et puis une infection du sang, on ne sait pas trop, on ne s'explique pas très bien ce mal-là, mais enfin, ce mal lui a laissé une espèce d'ulcère, et puis il a résulté un défaut au bras gauche. Mais c'est un enfant très robuste, il joue avec les enfants de Gori, et à quoi joue-t-il? Ben, il joue au brigand, il joue au brigand, et c'est lui qui est toujours le chef, toujours. Et ses petits camarades ne le contestent pas, on le reconnaît comme tel. À l'école, oh, c'est un brillant élève, mais il comprend tout, il retient tout avec une facilité étonnante. Mais alors, de très bonne heure, il se rend compte de cette injustice sociale. Comment, lui qui est le plus intelligent de la classe, Il appartient à une couche de la société vraiment inférieure. Il n'est qu'un fils de serf. Et toute sa vie, il souffrira de cette situation. Oui, il est plus intelligent que les fils de nobles, que des fils de bourgeois, que les fils de grands marchands, gros marchands de vin, de Tiflis. Eh bien, mais il n'est qu'un fils de serf. Sa mère, elle s'appelle Yekaterina Laguerre. Elle, c'est une femme analphabète, très simple, mais pieuse. Et puisque son enfant est le plus intelligent de la classe, elle fait un raisonnement très simple et au fond, elle est très, très logique. Puisqu'il est le plus intelligent, c'est juste qu'un jour, eh bien, il fasse la plus belle carrière qui puisse être pour un homme. Et quelle est la plus belle carrière? Mais c'est celle de devenir un prêtre. Et elle le voit déjà par la pensée, elle le voit revêtu des ornements liturgiques. Elle le voit qui donnera sa main à baiser aux fidèles, comme cela se fait dans l'église orthodoxe. Mais c'est la misère dans cette maison. Le père ne peut pas subvenir aux besoins de ce ménage. Il s'adonne à la boisson. Et c'est la mère qui fait des lessives. Oui, elle fait des lessives pour subvenir aux besoins de la maison. Alors le père décide d'aller à Tiflis et il s'engage comme ouvrier dans une fabrique de chaussures. Lui qui pourtant aimait tant la liberté et l'indépendance. Mais l'enfant n'a que 11 ans quand le père vient à mourir. Et c'est la mère, bien sûr, qui seule élève cet enfant. Elle est très heureuse lorsqu'elle apprend qu'il a obtenu une bourse à l'âge de 15 ans et il entre au séminaire de Tiflis, un grand séminaire. On a pu dire de ce séminaire qu'il était à la fois une caserne et un monastère. Une caserne, en raison de son importance, il était immense. Il y avait des centaines de séminaristes. Et un monastère, parce que toutes les fonctions, celles de principal, professeur, surveillant, toutes les fonctions étaient assurées par des moines. Mais, voilà, avant son entrée dans ce séminaire, il y avait eu un incident extrêmement grave. Un des séminaristes, qui se nommait Lagieff, mais Joseph Lagieff, avait assassiné le principal. On pense bien qu'un tel fait avait ému toute la ville de Tiflis et que dans toutes les maisons, on avait commenté ce drame. Et ce sont des notables, et en particulier les arques Paul de Géorgie, qui supposèrent et qui le communiquèrent ces suppositions. Que dans ce monastère, dans ce séminaire, c'était un monastère en même temps, eh bien, il devait y avoir d'autres têtes, d'autres cervelles brûlées. Que ce n'était pas possible que ce jeune homme, fils d'un prêtre orthodoxe encore, ait pu commettre seul cet assassinat. Alors, à partir de ce moment, les moines sont devenus très méfiants. Ils ont fouillé les poches des manteaux, ils ont fouillé dans les casiers des élèves, ils ont écouté aux portes, et puis les séminaristes étaient très mécontents de ces mesures. Ils ont commencé à ruminer entre eux, enfin bref. Et il y eut très souvent des altercations. Il y en avait un, par exemple, qui s'appelait Sylvestre Gibladze. Ah, c'était une porte-tête, celui-là. Lui, il n'a pas assassiné, mais il a giflé le principal. Bon, ben alors, il a été éjecté, bien entendu. Dans ce séminaire, on vivait dans une atmosphère tendue. D'ailleurs, plus tard, Staline dira, « Je haïssais les moines. Je haïssais les moines qui vivaient de mensonges. Et moi, je répondais par des mensonges à leurs mensonges. » Il dira aussi, « Oui, je suis devenu socialiste. Socialiste à cause de la position de mes parents. Mon père était cordonnier. et ma mère une ouvrière, mais aussi à cause de la dure discipline qui régnait dans ce séminaire. Vous voyez, on sent très bien l'animosité, c'était l'animosité perpétuelle. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ses camarades, eux, manifestaient leurs sentiments. Et alors, bien sûr, quand c'était grave, on procédait à des évictions. Mais lui, à lui ne laissait rien impercé, rien. C'était l'élève le plus discipliné et un brillant élève, un très brillant élève. Et on se demande, mais comment, pendant 5 ans, il a pu ainsi courber l'échine? On s'explique la chose en disant, c'était un fils de serf. Il a hérité de ses ancêtres cette docilité forcée. Et pourtant, il faisait tout ce qui était défendu. Il lisait beaucoup. Il faut dire qu'il avait la passion de la lecture et il y avait toujours un livre caché sous sa blouse. Mais qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait « La vie de Jésus » d'Ernest Renan, « Les travailleurs de la mer » de Victor Hugo, 93, « Napoléon le Petit » du même auteur, des œuvres de Bill, de Darwin, et surtout un livre. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps ce soir de faire une analyse de ce livre. Что делать, qui veut dire en russe que faire, écrit par Chernyshevsky dans la première moitié du 19e siècle. Ben, ce livre, c'était, on peut dire, une condamnation du christianisme, mais tout ce qu'il y avait de plus utopique, il renversait tout ce que l'enseignement, tout ce que l'Église a pu enseigner. Et il croyait, celui qui a écrit ça, le croyait certainement, qu'un jour, grâce à la science, grâce au communisme, eh bien, on réaliserait un paradis sur la terre. Et mais c'est utopique à en rire. Moi, j'ai étudié le livre à la Sorbonne, avec des camarades qui étaient communistes, et eux-mêmes riaient, se moquaient, on pouvait de rire en lisant ce livre. Eh bien, Lénine, le grand Lénine, avait ce livre sur sa table de chevet. Oui, c'était son livre de chevet. C'était vraiment une utopie vraiment inconcevable. Et donc, il lisait ce livre et tous les autres qui étaient condamnés. Et c'est la 5e année qu'on a commencé à s'apercevoir que Staline lisait toujours ce qu'il ne fallait pas lire. Mais il faisait bien pire. Il faisait des conférences en dehors du séminaire. Alors ça paraît incroyable, bien sûr. Mais voilà comment les choses se passaient. Il y avait à Tiflis une sorte de, bon, on pourrait dire, une organisation politique. Et on était tout à fait au début du socialisme. On se passionnait à Tiflis pour le socialisme. Alors cette espèce d'organisation formait des jeunes et les orientait vers une vie de révolutionnaire. Et alors il y en a beaucoup, même dans les séminaires, qui adhéraient à cette organisation, qui s'appelait Messam Dassi. C'était un nom géorgien. Oui, ça paraît extraordinaire, mais peut-être que chez nous, on aurait vu des choses semblables. Par exemple, peut-être que sous Pidis, ça s'est peut-être vu, que des séminaristes, par exemple, aient adhéré au Sillon. Moi, je crois que cela aurait pu être possible. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y avait des séminaristes qui étaient internes, qui obéissait aux ordres de cette organisation qui était socialiste. Mais c'est qu'on leur donnait des ordres, on leur donnait des tâches parfois très difficiles à accomplir. Et lui, eh bien, on lui demandait de faire des conférences. Et voilà comment il faisait des conférences en dehors du séminaire. Et voilà comment les choses se passaient. il préparait sa conférence sous les yeux des moines qui ne voyaient rien du tout. Et ensuite, quand la conférence était prête, il prévenait un camarade, et probablement le fameux Sylvestre Gibladier, cette tête brûlée là. Alors on lui cherchait une salle, ne disons pas une salle, enfin un lieu où il pourrait faire sa conférence. Alors c'était généralement un taudis. Et un témoin qui a participé à ces réunions a pu dire sa santé, la fumée, la sueur et la crasse. Et c'est là, dans un taudis, qu'il faisait la conférence. Généralement, il n'y avait pas plus de 10 ou 12 auditeurs. Mais il a dit, c'était exaltant. Et oui, il forgeait ses premières armes. Mais il ajoutait, ah, combien c'était par contre humiliant de rentrer au séminaire et de courber à nouveau l'échine sous l'autorité des moines, ces moines qu'il haïssait. Alors nous voyons qu'il était donc très coupable, il lisait tout le temps ce qui était défendu, et deuxièmement, il faisait des conférences hors du séminaire. Quand on s'en est aperçu, bien entendu, on l'a éjecté. Il est allé se réfugier chez sa mère à Gori. Il est resté là quelques mois, et puis des camarades lui ont trouvé un petit emploi et une chambre à l'observatoire de Tiflis. Ah là, il a été heureux quelque temps. Une chambre à lui. C'est la première fois qu'il avait une chambre où il était seul. Elle était à lui. Pour lui, c'était absolument extraordinaire. Là, il continue donc à fréquenter les cercles révolutionnaires. Et il continue à faire des conférences. Et c'est d'autant plus facile que là, il n'y a pas besoin de chercher. La conférence, il l'a faite dans sa chambre. Il suffit qu'il y ait 10, 12 auditeurs. Et dans ce cercle, eh bien, on se documente continuellement. On s'intéresse, on se passionne pour les idées révolutionnaires. Et il est très actif. C'est à la fin de 1900, que Lénine a fait paraître l'Iskra. L'Iskra, ça voulait dire l'étincelle en russe. Oui, cette étincelle qui va mettre le feu à toute l'Europe. L'Iskra, il l'a d'abord fondée à Stuttgart, ensuite à Munich, ensuite à Genève, et puis à Londres. Oui, ce fut la vie de Lénine de toujours changer, toujours déménager. Mais à Tiflis, on se passionnait pour l'Iskra. Oh, l'Iskra! On attendait l'Iskra. On faisait fête quand on recevait ce numéro de l'Iskra. Donc, Staline commence à s'ouvrir vraiment à tous les mouvements révolutionnaires. Et on apprend que dans les grandes capitales européennes, chaque année, on fête le 1er mai. C'est la fête des ouvriers, c'est la fête des travailleurs. Et on décide, eh bien, qu'à Tiflis aussi, on fêtera le 1er mai. Le 1er mai 1900, ce fut quelque chose de peu timide. On nous a d'ailleurs rien fait dans le centre de la ville, mais on organisa un défilé dans un faubourg. Alors, il y eut à peu près 200 ouvriers, ils portaient des drapeaux rouges, et puis des portraits de Karl Marx et d'Engels. Et personne n'a accordé beaucoup d'importance à cette première manifestation. Mais l'année suivante, on se promit de faire quelque chose de très spectaculaire. Et alors, tout le monde s'est dévoué. Et Staline, lui, ce sera d'ailleurs sa spécialité, il multiplie les tracts. Ah oui, ça, parce que ce travail, on peut le faire dans la clandestinité, cela s'explique bien. Alors il fait des milliers de tracts, mais des tracts agressifs. Sur certains tracts, on peut lire « Nous n'avons pas peur du Knut, nous n'avons pas peur des sabres, des cosaques, nous n'avons pas peur des tortures de la police, parce que nous sommes sûrs d'être vainqueurs. Un jour, oui, le tsarisme sera renversés, etc. Enfin, c'était des tractus qui avaient de plus agressif. Et naturellement, la police, qui s'appelait l'Ohana à cette époque, fait des recherches. Mais quels sont les auteurs de ces tracts? Et on finit par s'orienter vers la chambre de Staline. Et on trouve des tracts en préparation. Donc c'est lui qui est coupable. C'est lui l'auteur. Alors à partir de ce moment-là, la chambre étant placée sous haute surveillance, bien, Djoukachvili, c'est son nom, il n'a plus même un domicile. C'est un paria. On ne sait pas où il a vécu, on ne sait pas chez qui il a dormi. Il a pris pour pseudonyme le nom de Koba, parce que Koba en langue turque signifie indomptable. Et il fit des connaissances dans le Caucase, dans les montagnes. Il faut savoir que les tsars ont commis des fautes. Oui, à partir de Nicolas Ier en particulier. On voulait la paix, bien sûr, mais voilà comment les choses se passaient. On avait l'habitude de refouler tous les indésirables, de toujours les envoyer là-bas dans le Caucase. Le Caucase était devenu un exutoire. Par exemple, si un officier manquait son devoir, c'est se montrer indiscipliné, eh bien, on le dégradait et on l'envoyait dans le Caucase. Si un écrivain écrivait des nouvelles, des romans qui paraissaient un peu tendancieux, par exemple, on s'apercevait qu'il était tant soit peu révolutionnaire, bon, on censurait son œuvre, et puis lui, on l'envoyait dans le Caucase. Et c'est ainsi que de très grands écrivains ont fait des séjours dans le Caucase. Et de très grands poètes, les plus grands, comme Pouchkine et Griboïedov, ben, ils ont fait des séjours dans le Caucase. Et puis, il y avait les Polonais, les prisonniers polonais. Alors, ceux-là, on s'en défiait beaucoup. On ne pouvait pas compter sur leur loyalisme. Alors, pour avoir la paix, eh bien, on les expédiait dans le Caucase. Et puis, au début du XXe siècle, alors, ce fut bien pire. Il y eut ceux que l'on a appelés les marxistes. Oui, les ouvriers marxistes du centre. Et il y avait des ouvriers intelligents qui étudiaient le marxisme. Et c'était redoutable. Alors, on les envoyait encore dans le Caucase. Qu'est-ce qui arrivait? C'est que tous ces gens-là, bien sûr, n'avaient pas la même origine. Les uns étaient nobles, les autres bourgeois. Et puis il y avait ces ouvriers, et puis il y avait des prisonniers. Donc, c'était un monde hétéroclite. Mais, tous unis, tout de même, il y avait un lien commun. La haine du tsarisme. Tous étaient des ennemis du tsar. Et Staline, enfant, enfin donc, Djoukachvili, c'est son vrai nom, Djoukachvili entre en contact avec des gens révolutionnaires qui se trouvaient dans ce Caucase. Il fait la connaissance de Kalinine, grand révolutionnaire. Et puis, il fait la connaissance d'Aliloujev, Aliloujev qui sera son beau-père. Et il continue à travailler dans la clandestinité, mais il continue tout de même à avoir des contacts avec l'organisation à laquelle il appartenait. Et alors on pense qu'il avait très certainement un mauvais caractère et qu'il n'a pas pu y rester longtemps à cause de Sylvestre, ce fameux Sylvestre du Bladze, une serviette brûlée. Alors un jour il a décidé de quitter Tiflis et il est allé s'installer à Batoum. Batoum, petite ville pétrolière située au bord de la mer Noire. À Batoum, oh, elle était petite cette ville, il n'y avait que 20 à 25 000 habitants. Mais la situation était très favorable, on peut le dire, à la propagande révolutionnaire. Parce que là, il y avait des capitalistes, des gros capitalistes venus de l'Occident. Par exemple, il y avait les Rothschild. Et les Rothschild, ils avaient 4 grandes usines, les plus grandes usines. Et on exploitait les ouvriers qui arrivaient là. Et ils venaient de tous les pays, poussés par la misère. Il y avait des Turcs, des Persans, des Arméniens, des Géorgiens, un grand nombre des musulmans. Et alors on les exploitait Par exemple, ils n'avaient même pas de salaire fixe. On leur promettait des rétributions en nature, on leur promettait des pourboires et bien souvent, on ne les leur donnait pas. Alors, Staline, appelons-le Koba, pour le moment, il changera toujours de nom. Koba commence à travailler. Il fait des petites réunions, bien sûr, clandestines, toujours. Ce sera le grand clandestin. Et puis, et il recommence à faire des tracts et à répandre des tracts. Et un beau jour, bien sûr, la police intervient. Mais qu'est-ce que c'est que ces tracts et d'où sortent-ils? On fait des recherches et on découvre, eh oui, c'est Koba. Il est enfermé à la prison de Batoum et de là, il est déporté en Sibérie. Première déportation en Sibérie. Et il arrive donc dans une région qui se trouve à l'est d'Irkoutsk. Et il fait très froid. Le climat est rigoureux. La température descend à moins 40 et moins 50. Mais heureusement pour lui, il n'y restera pas. Car lorsqu'il arrive à Novaya Uda, c'est le nom de la station où il doit faire son temps, eh bien, on est à la veille de la guerre russo-japonaise. Et tous les fonctionnaires qui travaillent dans cette région sont très angoissés. Oh, ils se demandent ce qu'ils vont devenir, car la région n'est pas tellement éloignée de la Mongolie. Ils se disent qu'ils vont être pris entre deux feux, enfin, ils sont très, très, on pourrait dire, obnubilés. Et Koba observe. Ah, il observe bien. Ah, ça, ça va être un trait. Il faut bien le retenir. Il est perspicace. Il sait observer et il sait juger. Il observe tout ce monde et il profite d'un moment d'inattention d'un geôlier pour s'enfuir. Et il fait quelque chose d'extraordinaire puisqu'il traverse toute la Sibérie d'est en ouest. On se demande avec quel moyen, soit à pied, soit dans une charrette. Par des températures tellement rigoureuses, on se demande mais comment il a pu résister. Car les froids, quand ils sont très rigoureux, peuvent entraîner enfin, des maux très graves. Par exemple, on peut avoir les membres gelés et la gangrène. Eh bien, il arrive à Tiflis, malgré tout, en assez bonne forme. Il n'a pas pu retourner à Batoum, puisque c'était à Batoum qu'on l'avait arrêté. Alors, il recommence à mener une vie clandestine. Et il se renseigne sur ce qui s'est passé pendant son enfance, son absence, quand il était, par exemple, à Batoum, quand il était à Novaya Uda. Et on lui dit, eh bien, mais pendant votre absence, il s'est passé quelque chose de très, très important. C'est le congrès de Bruxelles. C'est à ce congrès de Bruxelles que s'est opéré ce que l'on a appelé la scission. Auparavant, il y avait toutes sortes de socialistes. Il y avait des socialistes modérés, des bonnaires, pourrait-on dire, pour eux. Ils ne demandaient pas grand-chose. Ils demandaient, par exemple, de meilleurs salaires pour les ouvriers, de meilleures conditions de travail. Ça n'allait pas plus loin. Et puis, il y avait, au contraire, des socialistes, alors, des enragés, des durs, qui, eux, voulaient renverser le tsarisme, qui n'avaient pas peur de faire même couler le sang. Il y avait donc toutes sortes de socialistes. Mais on n'avait jamais eu l'idée de les départager. On trouvait que c'était normal qu'il y ait des socialistes de tout poil. Mais voilà, c'est que le congrès de Bruxelles était dirigé par Lénine. Lénine aimait la clarté, la netteté, et voulait savoir eh bien, combien il y avait de mou et combien il y avait de dur. On a mis cela aux voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mous, disons les mous, les modérés, les débonnaires, ne prirent pas la chose au sérieux. Ils se dispersèrent, ils allèrent se promener pendant le vote. Mais les autres, qui s'étaient groupés autour de Lénine, ah, ils votèrent tous ensemble, en rang serré, on pourrait dire. Résultat des élections. Les Mencheviks, c'est ce qu'on va appeler les Mencheviks, les mous, mais qui étaient les plus nombreux de beaucoup, eh bien, ils ont eu peu de voix, très peu. Et bien sûr, ils n'étaient pas là. Et alors, au contraire, les autres, les partisans de Lénine, qui avaient tous voté, des hommes disciplinés, des durs, eh bien, c'est eux qui avaient obtenu le plus de voix. Et c'est la raison pour laquelle on les a appelés bolcheviques. C'est l'origine du mot bolchevique qui signifie en russe majoritaire. Et les autres, eh bien, que voulez-vous, c'était des mencheviques, c'était les minoritaires. Inutile de dire qu'ils furent très mécontents, ces mencheviques, ils protestèrent, ils demandaient qu'on reprenne tout cela, il fallait refaire les élections. Lénine fut inflexible, c'était fini, c'était irréversible. Donc c'était quelque chose de très important et qui va durer pendant maintenant près de 20 ans. Il y aura toujours d'un côté les bolcheviques et de l'autre les mencheviques. Et Staline se pose à lui-même une question. Moi, si j'avais été là, comment j'aurais voté? Il ne faut pas beaucoup réfléchir pour se dire il aurait été bolchevique. Et sera bolchevique toute sa vie. C'était en 1903, ce fameux congrès de Bruxelles. En 1905, c'est la révolution de 1905 qu'on a appelée aussi la répétition générale. Elle eut pour cause le mécontentement. Je ne voudrais pas être longue sur ce point parce que ce serait trop long. Mais enfin, il y a eu un sursaut d'indignation lorsque des pétitionnaires s'étaient rendus au Grand Palais, au Palais d'Hiver, pour présenter une pétition au tsar. Ils n'étaient pas armés. Ils étaient au contraire très respectueux. Ils portaient même des icônes. Et quelques-uns portaient même des portraits du tsar. Mais le tsar n'était pas au palais d'hiver ce jour-là. Et ils furent accueillis par les gardes du palais. Et bien les gardes du palais, ils ont tiré sur eux. Et le sang a coulé comme cela. C'était stupide. Alors il y a eu un sursaut d'indignation. Et qui s'est répandu d'ailleurs dans toute la ville de Saint-Pétersbourg et dans tous les environs, et cela a pris une grande extension. Alors on vit d'un côté se dresser des barricades, de l'autre envoyer des défilés, ailleurs des conférences. Et à Odessa, l'équipage du Potemkin se rallia aux insurgés. Mais cette révolution, elle s'est faite, on peut dire, sans coordination. Il n'y a pas eu un chef de grande envergure. Personne n'a pris la tête de ce mouvement. Et elle s'est vite essoufflée et elle a abouti, bien sûr, à un échec. Donc, à la fin de cette année 1905, Lénine organise un nouveau congrès. Ce sera le congrès de Tammerfors, en Finlande. Je ne sais pas si je l'écris, je ne sais pas. Tammerfors. Bien sûr, à ce congrès, on va faire un commentaire sur les événements qui viennent de se produire. On va juger. On le sait déjà, on n'était pas unis. On sait déjà les commentaires qui vont se faire. Et Staline n'avait jamais vu Lénine, mais il désirait ardemment le voir. Il était un oriental. Lui, il croyait qu'un chef, doit en imposer. Et puis, il avait toujours vu des prêtres Mitré, des grandes personnalités ecclésiastiques. Et pour lui, un chef doit en imposer. Et il se représentait vraiment un homme ayant beaucoup de prestance. Enfin. Et puis, il entre dans la salle du congrès et il voit un homme dont la taille est un peu inférieure à la taille moyenne. Puis, modestement vêtu, et puis avec une casquette. C'est ça, Lénine, il l'a écrit, qu'elle avait été très déçue. Et puis, Lénine s'entretenait avec des gens très ordinaires. Mais Lénine prend la parole. Il faut le dire, Lénine avait une parole magique. Il avait des arguments très percutants, des conclusions irréversibles. Ah, quand on avait entendu Lénine, on était généralement gagné. Alors, il est conquis. Il dit, oui, c'est un maître, et il sera mon maître. À ce congrès, Lénine demande aux congressistes de changer de pseudonyme. Alors, Koba, change de nom. Il s'appellera maintenant Ivanovitch. Et on discute, bien sûr, sur cette révolution qui vient d'échouer. Et bien sûr, on dit, c'est parce qu'on n'était pas unis. Et on parle de fusion. Oui, certains sont d'avis de fusionner, mais elle ne se fera jamais. Enfin, Staline est tout de même content d'être, il ne s'est pas manifesté, mais il est content de s'être trouvé là, parce qu'il est entré en contact avec de hautes personnalités du monde révolutionnaire. Oui, là, il y a des sommités. Par exemple, il y a Borodine, qui sera plus tard le conseiller militaire de Chiang Kai-shek. Il y a l'épouse de Lénine, Nadezhda Krupskaya. Mais il ne s'est pas manifesté parce qu'il est un homme de la montagne, il est fruste encore. L'année suivante, 1906, c'est le congrès de Stockholm. Eh bien là, il va se manifester. Il y aura deux thèmes. On va discuter sur ces deux thèmes. La terre et les brigades de combat. La terre. Il faut savoir tout de même, quand l'affranchissement des serfs a eu lieu, les serfs ont été éjectés des domaines, ils ont dû... Oh, il y en a qui sont morts de misère. Ils ont dû, oui, s'insérer dans la société. Mais les grands propriétaires fonciers sont restés propriétaires. Et la terre est toujours dans leur possession. C'est injuste. Alors, Lénine, qui n'a jamais touché une motte de terre, c'est un cérébral. Lui, il ne voit qu'une chose. La terre, eh bien, elle doit être nationalisée. Et dans l'assistance, il y en a qui discutent, qui disent « Ce ne serait pas préférable que la terre revienne à des localités. Chaque localité recevrait un territoire, elle établirait un cadastre. » Et alors, Staline prend la parole. Oui, il ne peut pas oublier. Il ne peut pas oublier la misère de son père. Et il dit « Mais la terre, eh bien, mais elle doit revenir à ceux qui l'ont toujours travaillée. Il faut posséder les grands propriétaires fonciers et puis redistribuer la terre à tous les petits paysans, enfin les anciens serfs. Oh, mais on se récrie. Mais alors vous rétablissez la propriété alors que nous voulons au contraire abolir la propriété. Bien sûr, c'est que parmi ces congressistes, il y en a qui étaient déjà marxistes. Tous ne l'étaient pas, mais il y avait des marxistes. Et on lui reproche même de vouloir établir une sorte de capitalisme, un nouveau capitalisme. Ce serait un nouveau capitalisme des campagnes. Eh bien, il reste sur ses positions. Deuxième thème, les brigades de combat. Lénine pensait toujours à la révolution. Il l'a pensé pendant plus de 20 ans. Il l'a préparé sur le papier, lui. Et alors, il voyait la révolution, eh bien, pour lui, elle devait être une insurrection. Une insurrection armée. Il ne la voyait pas autrement. Donc, pour provoquer une insurrection armée, il fallait des armes. Eh bien, les armes, il fallait les prendre là où elles se trouvaient, dans les arsenaux, dans les casernes, dans les dépôts d'armes. On devait s'emparer des armes. Et puis, il faudrait financer les opérations. Il faudrait de l'argent. Eh bien, il n'y avait qu'à s'en emparer. Il n'y avait qu'à prendre l'argent, attaquer les banques, les postes, attaquer les convoyeurs de fonds, etc. Et tous les bolcheviks qui étaient là ne pouvaient pas l'approuver. Il y a eu de violentes discussions. Il y en a qui refusèrent vraiment de penser à des brigades de combat. Mais Staline, lui, trouve que Ilitch, il appelait toujours Lénine Ilitch, le grand Ilitch, a raison. Oui, il faudra organiser des brigades de combat. Et quand il rentre à Tiflis, ben c'est ce qu'il fait. Il organise des brigades de combat, des petits jeunes qui groupent, et il leur apprend ce qu'il faut faire pour attaquer une banque. Et avec une audace incroyable, ces petits se livrent à des assauts, mais c'est absolument étonnant. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous sommes en Géorgie, hein, c'est le pays du brigandage, c'est le pays des grands brigands. Et il y aura même des jeunes qui préféreront mourir martyrs plutôt que de livrer le nom de celui qui les entraîne. Il y aura deux martyrs. Il y en a un qui s'appelait Petrosian. Ils étaient deux. Et leur exemple a bouleversé non seulement la population de Géorgie, mais même au-delà de la Géorgie, on a beaucoup parlé de ces deux martyrs. Et même en Occident, où ils avaient enduré des souffrances atroces, mais ils n'avaient pas livré le nom de celui qui était l'instigateur, celui qui enseignait. Et c'était Staline. Et c'était Koba. Et c'était Ivanovitch. Il aura toujours plusieurs noms. Mais, naturellement, à Tiflis, on commence à tout de même à être fatigué. On commence à se plaindre parce qu'il y a eu 1100 raids en peu de temps, en près de 2 ans. Les banques étaient attaquées, les gens aisés tremblaient. On vivait dans un pays de brigands. Et alors, il faut savoir que la ville de Tiflis n'était pas bolchevique dans l'ensemble. C'était plutôt menchevique, c'est-à-dire modéré. Mais on savait qu'il y avait quelques bolcheviques, n'est-ce pas, mêlés aux mencheviques. Et on a commencé à suspecter Koba Ivanovitch. Oui, ça devait être lui. Et pourtant, on ne l'a jamais pris sur le fait, jamais. Il a toujours été très habile. Alors, quand il a vu qu'il allait être arrêté, eh bien, il s'est enfui. Et il s'est enfui à Bakou. Et là, nous allons voir une nouvelle tranche de sa vie. Mais il va ensuite à Londres, au Congrès de Londres. Alors, au Congrès de Londres, c'est encore Lénine qui préside. Eh bien, Lénine maintient ses positions. Il maintient qu'il faut nationaliser les terres. Il maintient qu'il faut absolument avoir des brigades de combat pour préparer la révolution. Ils ont eu énormément d'ennuis. Ces fameux jeunes-là qui faisaient ces attentats, ils ont beaucoup d'ennuis. Ils ont essayé, quand ils avaient volé l'argent, ils ne savaient pas qu'en faire. Et puis c'est pas cela, c'est qu'il y avait des vrais, des purs, des vrais révolutionnaires qui le faisaient pour la révolution. Mais il y avait aussi des faux brigands, c'est-à-dire des gens qui attaquaient pour eux-mêmes. Et on ne pouvait pas distinguer les uns des autres. Alors, vous voyez, ça, la situation était assez confuse. Alors, le Congrès de Londres maintient que les brigades de combat, eh bien, il faut les maintenir. Et il rencontre beaucoup, beaucoup d'opposition. Et Staline, lui, reste toujours fidèle à tout ce que demande le grand Ilitch. Et c'est à ce congrès de Londres que Staline, Koba, Ivanovitch voient pour la première fois Trotsky. Ah, les deux hommes se regardent. Ils sont face à face. Ils ne se disent pas un mot. Mais Trotsky écrira qu'il a remarqué une lueur d'animosité dans les yeux jaunes de Staline. Oui, eh bien, cette lueur d'animosité peut faire penser à une tragédie grecque. Oui, cette animosité, c'était comme un feu qui couve sous la cendre et qui, un jour, ranimé soudainement, va déclencher par un processus essentiellement fatal, un événement, un drame irréversible. Oui, quelles que soient les précautions, les mesures de prudence, quelles que soient les distances qui sépareront ces deux hommes, ils appartiennent, ils sont liés tous les deux dans un véritable destin, mais un destin inexorable. Et c'est décidé, c'est un arrêt, on peut dire, inexorable. L'un détruira l'autre. C'est ainsi. Et Staline retourne, je dis Staline, mais c'est toujours Kuba, c'est toujours Ivanovitch. Il retourne à Bakou. À Bakou, il rencontre un grand révolutionnaire, Orjonikidze. Ah, c'est une tête, celui-là. C'est un intrépide. Et ils s'entendent à merveille. Et tous les deux vont s'établir dans un quartier tatar. Et même, ils y installent une imprimerie. Et là, bien entendu, Staline, Kuba, Ivanovitch, eh bien, va travailler. Il prend un nouveau pseudonyme. Maintenant, il s'appelle Nicharadze. Ils ont beau prendre des précautions, ils sont découverts par la police et ils sont enfermés dans la prison de Bakou. Une prison sinistre, parce que c'est dans cette prison même que se dresse la potence. Au fur et à mesure que les détenus sont jugés et condamnés, s'ils sont condamnés à mort, ils sont exécutés, séance tenante. Et c'est terrible, c'est terrifiant pour ces jeunes qui voient, qui assistent à ces pendaisons. Et bien c'est là que nous découvrons un trait du caractère de Staline. Mais Staline, impassible, impitoyable, ça ne le touche pas du tout de voir les camarades exécutés ainsi. Il dort les poings fermés, ou bien il se livre à des exercices de grammaire allemande. Il apprenait l'allemand, sans trop y réussir d'ailleurs. Il échappe à la potence, mais il est condamné à Solvitchegodsk. Ah, Solvitchegodsk, c'est une petite localité située au centre de la Russie. Solvitchegodsk avait été fondé au XVIe siècle par des pionniers, et c'était essentiellement un marché, le marché du sel et des fourrures. Mais les tsars avaient établi là un camp, une espèce de camp de concentration. Donc, il est conduit sous escorte, bien entendu, jusqu'à Solvitchegodsk. En cours de route, il a contracté le typhus, mais c'est une force de la nature, Staline. Il s'en tire très bien, et il arrive à Solvitchegodsk en 1908. Et à Solvitchegodsk, c'est bien, comme à Novaya Huda, il observe ce qui se passe. Il observe bien les geôliers. Et dès qu'il en voit un peu distrait, un peu... Ah, il profite d'un moment important. Et il s'évade et il se rend à Saint-Pétersbourg. C'est la première fois qu'il arrive à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, il cherche la maison d'Alilouyev, cet Alilouyev qu'il avait connu dans le Caucase et qui sera son beau-père. Il trouve la maison, il frappe. Et c'est Alilouyev qui le reçoit à bras ouverts. Alilouyev le connaît, il sait que ce sera un grand révolutionnaire, il le sait. Il le présente à tous les membres du comité, du comité central du parti bolchevique. On lui fait fête. Oui, mais il faut qu'il retourne à Bakou. Alors on lui fait de nouvelles pièces d'identité. Maintenant il s'appellera Zahar Grigorian Melikouyans. C'est un nom un peu long. Et grâce à ce nouveau pseudonyme, il peut traverser toute la Russie sans aucune difficulté. Et le voilà à nouveau à Bakou. Bien entendu, on le recherche de partout, on le recherche à Solvitchegodsk, on le recherche et on le retrouve à Bakou, on le ramène à Solvitchegodsk. Mais maintenant, les conditions vont changer. On lui laisse finir son temps, et quand il sera libéré, alors il n'aura plus le droit de retourner à Bakou. Il n'aura pas non plus le droit de se rendre dans une grande ville. Il devra chercher un lieu comme lieu de résidence, une petite localité éloignée d'une grosse agglomération. Et les choses s'effectuent ainsi. Le voilà libre. Et alors il choisit comme lieu de résidence Vologda. non pas pour ses beautés architecturales, mais parce que Vologda est située à égale distance entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Il est libre. Hein, il est libre, là, il fait ce qu'il veut, mais à la condition de ne pas aller au-delà d'un certain périmètre. Et perspicace comme toujours, il réussit à s'évader, et c'est la deuxième fois qu'il arrive à Saint-Pétersbourg. Et il cherche la maison d'Alilouyev, bien sûr. Oui, mais vient de se produire un fait extrêmement grave. Le premier ministre du tsar, Stolypine, vient d'être assassiné. Et il a été assassiné par un bolchevique. Alors maintenant, la police est sur les dents. Tous les gens qui n'ont pas un domicile fixe sont arrêtés, fouillés. Toutes les pièces d'identité sont contrôlées. Bien entendu, il est arrêté. On le ramène à Vologda, mais maintenant il sera placé sous haute surveillance. Et tel que nous le connaissons, nous ne nous étonnons pas qu'il se soit évadé encore une fois. Et il se retrouve donc à Saint-Pétersbourg pour la troisième fois. Là, il est arrêté sous le nom de Chiznikov. Et là, alors, maintenant, tout change. Il est déporté dans la Sibérie occidentale, dans un lieu qui se nomme Narim. Nous sommes en 1912. L'année 1912 est assez riche en événements. Il faut dire que les brigades de combat avaient fait beaucoup de mal et que grande partie de la population en Russie était démoralisée. Et elle se trouvait dans un véritable marasme. Lénine voulait ranimer la flamme. Il voyait que les bolcheviques, les révolutionnaires, d'une façon en général, étaient plutôt en régression. Et alors, pour ranimer la flamme, il voulait absolument inculquer le marxisme. Ah, Lénine, c'était le vrai marxiste. Et il rencontrait peu d'adhérents. Et il s'est beaucoup fatigué à vouloir enseigner le marxisme. Enfin, voyant qu'il n'avait pas beaucoup de succès et puis il était fatigué, il s'est accordé un temps de repos. Et puis il est venu à Paris. À Paris, il a fréquenté les bibliothèques et puis il s'est installé à Longjumeau où il a organisé une session de marxisme. Et tous ceux que le marxisme pouvait intéresser sont venus se grouper autour de lui. Et puis ceux qui étaient réfractaires, eh bien, ils ont l'air se grouper à Capri, une petite île italienne. C'est dans cette même année 1912 qu'on a constitué un nouveau comité central du parti bolchevique. Donc, Staline, Koba, Nicharadze n'étaient pas là. Il était toujours en déportation dans la Sibérie occidentale. Mais Lénine commençait à connaître Staline. Et il a fait pression sur les congressistes. Il leur a demandé de voter pour Staline, qu'on appelait encore Koba. Alors voici comment le comité central a été composé. Lénine, Koba, Orjonikidze, Zinoviev et Malinovitch. Ils étaient cinq. Qui était ce Malinovitch? Un traître. C'était un Polonais qui se disait parfaitement russifié et qui, au fond, était à la solde de la police de l'Ohana. Et nous allons voir qui va trahir. On forme aussi le bureau. Alors le bureau comprend Staline, Orjonikidze, Spandarian et Gogoloshin. C'est encore dans cette même année 1912 que l'on fonde la Pravda. De sorte que l'année dernière, 1992, eh bien, la Pravda avait 80 ans. C'était une vieille dame. Et nous savons qu'elle a été suspendue quelques jours par Boris Eltsine. Et donc, c'est encore à la fin de cette année, 1912, que Staline revient. Tout d'un coup, il surgit. Il a réussi encore à s'évader de la Sibérie occidentale. On l'était faite. et Lénine lui confie une mission. Il l'envoie à Cracovie et à Varsovie, et puis ensuite à Vienne. C'était pour lui rapporter quelques documents sur ce que l'on appelait les nationalités. Ça sera un problème très important. Il y avait dans tous les grands pays, comme la Russie en particulier, des petits peuples qui se trouvaient englobés dans l'immense pays et qui n'avaient pas les mêmes coutumes, la même religion, mais souvent la même langue, et qui posaient des problèmes. Et ils vont en poser de très grands. Et il en est de même en Autriche. Alors, Lénine a envoyé Koba, il s'appelait Nicharadze, enfin bon, il avait toujours quatre ou cinq noms. Il l'envoie pour étudier ce problème. Et au fond, on pense que c'était uniquement pour voir comment il ferait, quelles seraient ses observations. C'était plutôt pour le connaître. Alors voilà donc Koba qui se trouve à Vienne. À Vienne, il est guidé par Boukharine, qui était très jeune. Boukharine, à ce moment-là, n'avait que 20 ans. Et une grande renommée, c'était un écrivain. Oui, à 20 ans, il écrivait des livres et il était merveilleux. Il se trouve à nouveau en face de Trotsky. Ils se regardent tous les deux. Oui, comme ça, face à face. Et Trotsky écrira qu'il avait vu à nouveau la lueur d'animosité dans les yeux jaunes de Staline. Ils ne se disent pas un mot. Enfin, Staline, Koba, Nicharadze rentrent à Saint-Pétersbourg. Lénine est ravi de le retrouver et puis il est très content des renseignements qu'on lui rapporte, et il écrit à un de ses amis, « Je viens de prendre connaissance du travail de ce merveilleux géorgien. » Alors, nous voyons déjà que Lénine ne jugeait pas Staline comme l'avait fait Trotsky. Trotsky disait que c'était une médiocrité, qu'il avait l'esprit lourd, qu'il n'avait pas d'imagination, etc. Mais Lénine fut toujours de l'avis opposé. Il a toujours trouvé que Staline avait des qualités extraordinaires. Oh oui, il était lourd, il faisait beaucoup de fautes d'orthographe. Mais il était géorgien. Ce n'était pas sa langue, la langue russe. Il est devenu... Oui, il a su après parler comme il faut, mais il change de nom. C'est en 1913 qu'il se fait enfin appeler Staline, qui veut dire homme d'acier. On est très content, parce qu'il revient, il a pu s'évader, et puis... Il a apporté des renseignements intéressants pour Lénine. Et alors, on organise une petite fête musicale, qui était autorisée d'ailleurs par le tsar. Et Staline fait la réflexion devant Malinovitch, le traître. Il dit, je ne sais pas si je ferais bien d'y aller. Après tout, c'est un évadé, mais il est toujours recherché. Mais Malinovitch lui conseille au contraire d'aller à cette petite fête et lui affirme qu'il ne risque rien. Et pendant la fête, les bolcheviks qui sont là remarquent des allées et venues insolites, des visages, mais des visages qui ne sont pas familiers. Bon, ils commencent à s'inquiéter et vite ils passent un manteau de femme à Staline en lui disant de vite, vite endosser. Staline s'exécute, il met ce manteau, mais c'est trop tard. Il a été démasqué, il est arrêté, et cette fois alors va commencer la vie la plus dure, la période la plus dure de son existence. Il est condamné à la déportation dans le Grand Nord pour 4 ans, à Kurielka, au-delà du cercle polaire. Certains biographes ont été injustes à l'égard de Staline, quand ils ont écrit que pendant ces 4 années, Staline ne s'était pas du tout intéressé à ce qui se passait en Europe, à ce qui se passait, oui, dans les tranchées. C'était la guerre à partir de 1914. Et c'est vrai que depuis 1913, date du début de cette déportation, jusqu'à 1917, Staline n'a pas eu l'air, en effet, de s'intéresser à ce qui se passait. Mais c'est ne pas comprendre les conditions géographiques qu'il se trouvait être à ce moment-là. Il faut savoir que dans au-delà du cercle polaire, il fait nuit une partie de l'année. Et puis la toundra, la terre, c'est une terre gelée une bonne partie aussi de l'année. Elle ne produit rien. Et les Ostiaques, les indigènes, vivaient l'été sous des tentes de peau de renne et l'hiver dans des huttes enfoncées dans la terre. Et pour se réchauffer, ils n'avaient que des fourrures et de la vodka. Et pour vivre, eh bien, il fallait se procurer. En chassant, il fallait capturer une bête. Et voilà la vie qu'a menée Staline pendant 4 ans. Pendant 4 ans, chaque jour, il fallait trouver une bête. Mais oui, pour survivre le lendemain. Il fallait piller, il fallait la poursuivre, il fallait la capturer, il fallait la dépecer. Ou bien alors, il fallait se procurer un poisson. C'était pas facile non plus. Pour avoir un poisson, il fallait faire un trou dans la glace et puis élargir ce trou avec un outil qui ressemble à une espèce de vilebouquin. Et puis alors, dans ce trou, on jetait un hameçon. Si un poisson voulait bien venir y mordre, mais en attendant, la température descendait à moins 50. On ne se rend pas compte. Quand on critique Staline durant ces 4 années, il a fait quelque chose au contraire d'extraordinaire. Il a su vaincre toutes les difficultés. On peut dire, c'est presque de l'héroïsme. À la fin de l'année 1916, la situation était très très grave sur les fronts. Les petits soldats russes mouraient par milliers dans la boue des tranchées. Et on n'avait pas assez d'effectifs pour les remplacer. Alors Nicolas II et le grand état-major décidèrent de rassembler ces détenus, et il y en avait de tous les côtés dans l'immense Sibérie, eh bien, de les rassembler, de leur faire passer un conseil de révision, et puis tous ceux qui seraient bons pour le conseil de vu par le conseil de révision, eh bien, seraient expédiés sur les fronts. Et c'est ainsi que Staline a été transféré depuis Kurielka jusqu'à Krasnoïarsk, qui se trouve dans la Sibérie orientale, à l'est d'Irkoutsk. Et là, alors à Krasnoïarsk, il a rencontré un grand nombre de révolutionnaires. Il en a retrouvé qui étaient des amis. Il a retrouvé, par exemple, Kamenev. Alors là, bon, eh bien, on les examine un par un. Mais lui, on ne le prend pas. Lui, qui est une force de la nature, on ne le prend pas à cause de ce défaut qu'il avait au bras gauche. Mais on lui laisse finir son temps près de Krasnoïarsk. Enfin, en 1917, il est libéré. C'est la première fois qu'il est libéré et qu'il peut se déplacer en toute liberté sans risquer d'être arrêté. Et il revient à Saint-Pétersbourg. Il arrive à Saint-Pétersbourg le 12 mars 1917. 12 mars. Bien, qu'est-ce que cela signifie ? Il y a 10 jours que Nicolas II a abdiqué. Oui, c'est le 2 mars que Nicolas II a abdiqué au profit de son frère, le grand-duc Michel, qui le lendemain a démissionné et le pouvoir alors est confié au prince Lvov. C'est un prince, bien sûr, tsariste, mais libéral. Et Staline, toujours perspicace, observe ce qui se passe. Il déplore la désunion. Oui, c'est la désunion qui règne en Russie à cette époque. Bien sûr, il y aura toujours d'un côté les bolcheviks et de l'autre les mencheviks. Ça sera toujours ainsi. Mais même à l'intérieur du parti, même à l'intérieur du parti bolchevique, on est désunis. Et alors, il y a une aile droite, une aile gauche. mais il fait ce qu'il peut pour réduire le fossé qui sépare les deux ailes. Donc nous sommes en mars 1917. Avril 1917, c'est le retour de Lénine. Lénine revient par le train plombé. Et dans ce train, il pense. Il pense à cet accueil qu'on va lui faire. Qui sait, il va peut-être être arrêté et conduit à la forteresse Pierre et Paul. Et il pense aussi, bien sûr, oh, toujours à la Révolution. Avant de quitter Genève, il avait fait une conférence à des jeunes et il leur avait dit notamment, nous, quand il disait nous, il désignait sa génération, nous ne verrons pas la révolution que nous préparons. Nous ne verrons pas la révolution à laquelle nous aspirons. Mais vous, les jeunes, vous assisterez à son triomphe. Eh bien, Lénine se trompait. Elle n'était pas du tout éloignée, la révolution. Elle va avoir lieu quelques mois plus tard. Et il la croyait très, très, très éloignée. Le lendemain, il a été bien accueilli, en tout cas, on ne l'a pas arrêté. Et le lendemain, il fait des conférences. Et ces conférences sont restées célèbres sous le nom de thèse d'avril. En somme, c'était son programme qu'il exposait. Et un témoin qui n'était pas bolchevique et qui s'était glissé parmi les auditeurs a dit « On avait l'impression que le génie, un génie de la destruction universelle avait surgi en ce lieu. » Et les bolcheviques furent stupéfaits et l'aile droite même se retira. Tant ces fameuses thèses d'avril étaient utopiques. Et des bolcheviques chuchotaient, mais ce pauvre Ilitch, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il a un peu perdu la raison. Et oui, ce qu'il demandait était tellement, à ce moment-là, irréalisable. Il préconisait l'abolition de l'armée permanente, l'abolition de la police politique, la nationalisation des terres, la nationalisation de l'industrie. Et tous les produits de l'industrie devaient être bien sûr nationalisés et placés sous la surveillance des ouvriers. Et puis, la fusion de toutes les banques en une seule est placée sous l'autorité du Soviet, et ainsi de suite. Tout cela était irréalisable. Mais Lénine ne changera jamais d'idée. Le mois suivant, c'est le mois de mai. Mai 1917. C'est le retour de Trotsky. Oui, Trotsky avait toujours été un adversaire de Lénine parce qu'il condamnait les méthodes violentes. Il était contre les effusions de sang. Il avait été d'ailleurs horrifié par la guillotine et par tout ce qui s'était passé en France. Il reprochait constamment à Lénine ses méthodes militaires. Il disait, oui, Lénine disait que on devait lutter, on devait combattre comme un militaire. Et il n'approuvait pas du tout. Et il condamnait aussi les brigades de combat. Donc il avait été un adversaire de Lénine et il était plutôt menchevique. Il revenait d'un camp qui se trouvait dans le nord de l'Amérique. Et oui, il y avait un territoire russe dans le nord de l'Amérique. Il appartenait à la Russie. Puis après, la Russie l'a vendu à l'Amérique. Donc, Trotsky revenait de ce territoire où il avait fait un camp, il avait été déporté. Il avait longtemps réfléchi. Et il finissait par se dire, les Mensheviks ne feront rien. Ce sont des mous. Et Lénine avait la haine des gens mous. Mais Trotsky finit par penser de même. Les mous ne gagneront jamais, ils ne feront rien. Et très certainement, la victoire appartiendra aux durs, donc aux bolcheviks. Et alors il décide, il tourne le dos aux mensheviks, il décide d'adhérer au parti bolchevique. Voyez, nous sommes en mai 1917. Et il cherche Lénine. Il le rencontre et il lui dit, dorénavant, je serai bolchevique. Et cette adhésion de Trotsky est extrêmement importante. Parce qu'avec lui, il amène d'autres adhérents. Et il amène des gens de grande valeur. C'est lui qui l'a amené au parti, Lunacharsky, l'un des plus cultivés de son temps, et d'autres. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que le soviet change de physionomie. Il faut savoir ce que c'était que le soviet. Le soviet, c'était un peu une chambre comparable à notre chambre des députés. Et les membres du soviet étaient élus. Théoriquement, ils représentaient la volonté du peuple. Mais il y a une différence avec notre Chambre des députés. Chez nous, si un député vient à disparaître, eh bien on procède à des élections partielles. Mais en Russie, c'était différent. Dès qu'il y avait une défection quelconque, on refaisait toutes les élections. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est que très souvent, le soviet était modifié, il changeait de physionomie, et voilà que depuis le retour de Trotsky, le soviet devient essentiellement bolchevique. Il y a eu un grand changement dans le soviet. Et cela va avoir, bien sûr, des conséquences considérables. Donc, nous avons vu ce qui s'est passé en mars, avril, mai. Nous arrivons au mois de juin. Mais le mois de juin, il n'y a pas eu grand-chose au mois de juin. Mais il y a eu quand même un grand défilé de toutes sortes de socialistes. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que certains portaient des pancartes, et sur ces pancartes, on pouvait lire des slogans bolcheviques. Ça encore, cela prouvait que le bolchevisme faisait des progrès. On arrive au mois de juillet. Ah, alors là, le mois de juillet est marqué par des journées très mouvementées. Ce sont des délégués des régiments, même de la garnison, qui étaient déjà, on peut dire, gagné par les idées révolutionnaires, mais n'était pas bolchevique. Et avec des gens des faubourgs surtout, on avait organisé des manifestations. On avait décidé de faire une grande manifestation. Et alors on est venu voir les bolcheviques et on leur a demandé de venir se joindre à cette manifestation. Et ce n'était pas du tout dans les idées de Lénine. Lénine continuait à voir la révolution très loin, puisqu'il disait toujours, nous ne la verrons pas. Alors il voyait que cette manifestation que l'on projetait, ben, elle était tout à fait inopportune. Pourquoi faire cette manifestation? Une telle manifestation risquait de dégénérer, combat de rue, effusion de sang. Pourquoi? Alors on se réunit au comité central du parti bolchevique. Doit-on, oui ou non, participer à cette grande manifestation? C'était dans l'idée de Lénine de ne pas participer. Mais voilà, et ce fut l'avis de tous, si on ne participe pas à la manifestation, on dira, oh c'est bolchevique, ils parlent beaucoup, oh oui, ce sont des durs, oh oui, ils feront la révolution eux. Mais quand il faut manifester quelque chose, quand il faut participer, alors il se taire. Ce sera très mal compris, il faut participer à cette manifestation. On ne se mettra pas trop en avant, au contraire, on essaiera de contenir un peu la foule, mais il faut se joindre. Ces journées que l'on a appelées les journées de juillet, qui ont duré 3 jours, ont été, on pourrait dire, abominables. La foule était déchaînée, il y avait des gens qui venaient des faubourgs, mais une foule qui criait « Le pouvoir aux soviets, le pouvoir aux soviets !» C'est un slogan qu'on finissait par entendre de tous les côtés, à tous les coins de rue, sans trop même savoir ce qu'il voulait dire. C'était une foule un peu aveugle et déchaînée. La foule s'est ruée devant le soviet, mais le soviet ne pouvait rien faire, séance tenante. On s'en est pris même à un pauvre vieillard parce qu'il avait été ministre et on l'aurait mis en pièces si Trotsky n'était pas venu le délivrer. Ce furent des journées terribles. Alors, elles furent tellement terribles que le prince Lvov dut démissionner. Et il sera remplacé par Kerensky. Kerensky, c'était un ancien avocat qui avait été ministre de la justice durant le règne du prince Lvov. Kerensky pense qu'on manque d'autorité. Oui, tous ces désordres, tout ce qui se produit, eh bien, il faut sévir. Alors il commence par instaurer la peine de mort pour tous les jeunes qui déserteraient. Et oui, il y avait beaucoup de désertions, beaucoup. Les soldats fuyaient les tranchées et rentraient dans leur village. Cela a été expliqué par des psychologues. C'est que la Russie avait toujours été comparable à une pyramide. Au sommet de cette pyramide, il y avait toujours eu un tsar. Mais c'était une pyramide renversée. Parce que ce tsar, il était à la base de toute la vie économique, morale, religieuse. Il n'y avait plus de tsar. Et c'est un phénomène curieux. Mais il est expliqué ainsi par les psychologues. Eh bien, les gens qui étaient pour un grand nombre analphabètes se disaient, il n'y a plus de tsar. Pourquoi faire ? Servir, obéir, mais qu'est-ce que c'est ? Ça n'avait plus de sens pour eux. Parce que le tsar incarnait pour eux toute la vie morale. C'était curieux, mais c'était ainsi. Il y avait une autre raison aussi qui peut expliquer les désertions, c'est qu'on avait fait courir le bruit qu'on allait procéder au partage des terres. Ou alors, les fils d'anciens serfs, puis les petits paysans, enfin, tous voulaient rentrer au village pour assister à ce partage des terres. Alors Kerensky, donc, instaure la peine de mort pour tous les déserteurs. Et puis il instaure aussi une loi. C'est l'interdiction de toute transaction. C'est défendu d'acheter ou de vendre de la terre. Et c'était toujours dans le même but, pour empêcher la désertion. Troisièmement, il lance un mandat d'arrêt contre Lénine. C'est au comité central, on discute. Que doit faire Lénine ? Trotsky et Lunacharsky pensent que Lénine doit se présenter devant les autorités militaires. Il n'y a pas autre chose à faire. Il s'expliquera. Ce n'est pas lui qui est le responsable des journées houleuses de ces fameuses journées de juillet. Ce n'est pas lui. Il s'expliquera. Mais Staline prend la parole. Non, Ilitch ne doit pas se livrer. Et il avait raison. On ne l'aurait plus jamais revu. Il aurait été déporté à vie en Sibérie ou ailleurs. Il dit, il faut qu'il se cache. Il faut qu'il fasse ce qu'a fait Robespierre. Robespierre, avant d'atteindre le sommet de la gloire, il était allé se cacher chez un charpentier. Et c'est ce que fait Lénine. Il va se cacher chez Alilouyev, celui qui sera son beau-père. Et un soir, à la tombée de la nuit, Lénine escorté d'Alilouyev et de Staline se rend à la gare maritime et de là, il s'enfuit en Finlande. Il n'y a plus de Lénine. Il n'y en a plus. Et pour Kerensky, c'est un coup. Mais Kerensky ne désespère pas. Il donne ordre à la Loukhana d'arrêter tous les ténors du parti bolchevique, c'est-à-dire Staline, bien sûr, Staline, Trotsky, Lunacharsky, Zinoviev, Kamenev et une femme, Alexandra Kollontai, qui avait été surnommée la Léninka, diminutif de Lénine, parce que c'était une admiratrice passionnée de Lénine. Elle assistait à toutes les conférences de Lénine et elle avait beaucoup de charme et elle savait faire, elle savait parler. Elle avait beaucoup de succès, surtout parmi les marins. Alors, Kerensky le savait, et elle sera celle-là aussi emprisonnée. C'est donc une rafle énorme. Tous les ténors sont emprisonnés, sauf Staline. Alors ça, c'est bien sûr extraordinaire. Eh bien, si Staline n'a pas été pris dans cette rafle, c'est grâce à Lénine. Lénine avait prévu les choses. Et il avait fait... avec l'aide de Krupskaya, son épouse, des pièces d'identité fausses. Il fallait que dorénavant il n'y ait plus de Staline. Alors il a préparé des pièces d'identité au nom de Valim, mais elles étaient très bien faites, très minutieusement faites. Et il y avait une concordance entre ces différentes pièces et tout le curriculum vitae qu'il a inventé. Tant et si bien que quand on avait fait les arrestations, eh bien, il n'y avait plus de Staline. Et puis, il était bien grimé. Hein. Ça, il faut savoir que Lénine, il savait très bien se grimer. Et il avait appris ce tard à Staline. Donc, Staline est bien grimé. Il s'appelle pas Staline, il s'appelle Valim, et toutes les pièces sont là pour le prouver. Et donc, il est passé à travers les mailles du filet. Et il s'est occupé pendant ce temps-là de ranimer la flamme, parce que, plus de Lénine, tous les ténors sont en prison. Ça va mal pour le parti bolchevique. Ou du moins, ce fut un moment de découragement temporaire. Et le soviet, mais il était devenu bolchevique en attendant. Et le soviet représentait la volonté du peuple. Et le soviet pouvait obtenir quelque chose. Et le soviet donne l'ordre à Kerensky de libérer tous ces hommes qu'on a emprisonnés. Et Kerensky est obligé de les relâcher. Et c'est une preuve de la faiblesse de son nouveau gouvernement. C'est déjà un gouvernement, on l'a dit, à l'agonie. Donc, voici les ténors qui sont ressortis de la prison. Lénine, qui suit bien de loin les opérations, se dit, mais on répète toujours le pouvoir aux soviets. Le pouvoir aux soviets. Et le soviet, maintenant, est bolchevique, essentiellement bolchevique. Mais alors, ça revient à ceci, le pouvoir aux bolcheviques. C'était un raisonnement très simple. Alors, il envoie des messages par l'intermédiaire d'Alilouyev. Il dit à ses... Mais c'est le moment de faire la révolution, puisque le pouvoir doit revenir aux bolcheviques. Mais on accueille très mal cette missive. Lunatcharsky et surtout Trotsky, c'est digne. Trotsky déclare. Mais pourquoi? Pourquoi ce serait seulement le comité central du parti bolchevique qui ferait la révolution? Mais il y a des révolutionnaires un peu partout. Il y a des révolutionnaires dans le parti social. Il y avait notre parti, oui. On appelait les socialistes révolutionnaires. C'était un autre parti. Et puis, il y a des fortes têtes dans les usines. Il y a des ouvriers bien musclés. Pourquoi ne s'adresse-t-il pas à tous ces gens-là? Non, il veut que nous seuls nous fassions la révolution. Kamenev et Zinoviev qui étaient présents ont trouvé que c'était insensé de la part de Lénine. On dit, mais il n'y a qu'à les brûler, ces missives, parce qu'elles sont compromettantes. Eh bien, c'est Staline qui trouve que c'est très bien, que c'est Lénine qui a raison. Vous voyez, toujours il était de l'avis d'Ilitch. Mais on discute tout le mois d'août. Et Lénine s'impatiente. Il voit bien, il sait bien que là-bas on discute pour ne rien faire. Alors il décide de rentrer à Saint-Pétersbourg. Il arrive bien grimé, avec une perruque, et il prend la direction de toute la vie du comité central. Il insiste, oui, c'est le moment de faire la révolution. C'est le moment tout à fait opportun. Il y a beaucoup de tiraillements, bien sûr. Mais enfin, il arrive à convaincre. Et donc, septembre, le dernier mois avant la révolution, eh bien, on fait le plan. Inutile de dire que chaque jour, on efface ce qu'on a prévu la veille, mais enfin, on discute beaucoup. Eh bien, c'est décidé. On fera la révolution le 25 octobre 1917. Oui, beaucoup de critiques ont pu dire que cette révolution, elle avait été un jeu d'enfant. Oui, ça a été écrit. Il faut dire la vérité, ils n'ont pas, les révolutionnaires n'ont pas rencontré une très grande résistance. Déjà, il y avait la garnison et un grand nombre de gens qui étaient gagnés. On a pu dire que cette révolution avait eu pour point de départ quelques cachets de cire. Pourquoi ? Parce que il y avait dans Saint-Pétersbourg une imprimerie qui était toute à la disposition de Staline. Et le matin de la révolution, donc le matin, le 25 octobre, les ouvriers sont venus, comme d'habitude, pour prendre leur travail. Et ils ont vu que la porte de l'imprimerie était fermée et qu'on avait apposé même des cachets de cire. Alors ils ont fait grand tapage et ils ont appelé au secours, enfin des durs qui s'étaient parqués un peu partout. Il y en avait qui s'étaient cachés sous des ponts, d'autres autour de la poste, d'autres autour du téléphone central, etc. Et alors, il y a eu un grand tapage, mais il n'y a pas eu tellement d'effusion de sang. Enfin, la journée a été bien sûr très mouvementée, mais en vérité, il n'y a pas eu si grande résistance qu'on veut bien le dire. Enfin, ils ont été victorieux, ce fut appelé par la suite la grande révolution d'octobre. Oui, on a beaucoup amplifié les choses par la suite, bon, pour des raisons politiques. Kerensky est obligé de s'en aller, il est renversé, son gouvernement est renversé. Et alors, c'est Lénine qui est le maître. Voici l'année 1918 qui commence. Oui, on peut se demander, en cette terrible année 1918, si le peuple russe n'a pas à payer le prix du sang versé. C'est en cette année-là que Nicolas II, sa femme, les quatre grandes duchesses et le petit Tsarevitch ont été tués à coups de revolver à Yekaterinbourg le 16 juillet 1918. Car cette année-là, elle est frappée, mais alors elle est marquée par des événements extrêmement graves. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'ils vont en s'amplifiant. Au début, ils ne sont pas terribles, mais alors après, vers la fin, mais ce sont des événements qui ont des dimensions cataclysmiques. D'abord, Lénine compose le premier gouvernement. Alors, les critiques seront nombreuses. Voici comment il forme ce gouvernement. Président Lénine. Trotsky, commissaire, ça veut dire ministre, hein, c'est la même chose. Alors, Trotsky, commissaire aux affaires étrangères. Staline, commissaire aux nationalités. Rykov, commissaire à l'intérieur. Lunacharsky, commissaire à l'instruction publique. Miliotine, commissaire à l'agriculture, et ainsi de suite. Eh bien, ce gouvernement n'a pas été bien accueilli. Pourquoi ? Mais parce que Lénine n'avait pris que des bolcheviks pour former ce premier gouvernement. D'autre part, il avait donné aussi un commissariat, un ministère, à une femme, Alexandra Kollontai. Et jamais on n'avait vu ça, une femme. Alors, les choses ont commencé pas trop bien. Quand Alexandra Kollontai a voulu prendre son service, eh bien, les fonctionnaires de son ministère avaient décidé de faire grève. Elle trouve des salles vides. Le sol est jonché de papier. Les coffres-forts sont fermés. On ne sait pas où sont les clés. Et ce jour-là, c'était le jour où on remettait les fonds. C'était le jour où toutes les œuvres venaient demander un peu d'argent, des moyens pour continuer à fonctionner. Il y avait là les représentants de la maison des vieillards, des aveugles, des invalides. Il y avait aussi des enfants, des orphelins. Et certains étaient pitoyables. Ils étaient cachectiques. Ils étaient bleus de froid, vêtus de haillons. mais une marée humaine à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et tous ces gens venaient chercher des fonds pour continuer, pour faire marcher les hôpitaux, les crèches, toutes ces maisons. Elle était seule en face de cette marée humaine, impuissante, ne pouvant même pas leur donner un copec. Alors des larmes coulaient sur ses joues. Et c'est un témoin qui a pu déclarer, eh bien, ce sont les larmes de la colonne taille qui ont brisé la grève. Peu à peu, les fonctionnaires sont revenus et ils se sont remis au travail. Alexandra Kollontai a donné tout de même quelques satisfactions. Elle va s'intéresser tout particulièrement à l'enfance malheureuse. Elle va créer des crèches, des hôpitaux spéciaux pour les enfants, surtout sur les bords de la mer Noire. Plus tard, Lénine la nommera ambassadeur au Mexique et puis ambassadeur dans les pays baltes. Mais les choses furent tout à fait différentes pour Staline. Staline, quand il s'est installé, il était commissaire aux nationalités, tout semblait aller très bien pour lui. Il s'était installé au Smolny. Le Smolny, c'est l'ancienne institution pour jeunes filles et qui avait été réquisitionnée par les bolcheviks. Mais c'est à cause des utopies de Lénine et surtout de son manque de prévision que tout a tourné mal. Lénine avait proclamé ceci. Si ces petits peuples, les petites nationalités, vous savez qu'au-delà de l'Oural, il y en avait des petits peuples, hein, il y avait les Kirghiz, les Tadjiks, les Bouriates, les Ostiaks, les Ouzbeks, etc. Et puis, la Finlande et l'Ukraine étaient aussi comprises dans les nationalités, c'est-à-dire tous les pays qui étaient hors des frontières, des frontières russes, proprement russes. Mais il avait dit, s'ils veulent leur indépendance, eh bien, ils n'ont qu'à la demander, on la leur accordera. Ah, alors, la Finlande a demandé tout de suite son indépendance. Et Staline a dû se rendre en Finlande pour signer cette reconnaissance. La Finlande était indépendante. Elle organise des élections et elle se donne un gouvernement bourgeois. Ce fut une gifle pour les bolcheviks, pour le comprendre comment. C'était un gouvernement bolchevique qui leur avait donné l'indépendance, ils s'en servaient pour se donner un gouvernement bourgeois. Mais ce fut bien plus grave en Ukraine. L'Atman d'Ukraine a demandé aussi son indépendance. Il a ordonné à tous les soldats ukrainiens qui se trouvaient dans des tranchées de rentrer en Ukraine. Ils n'étaient pas russes. Pourquoi faisaient-ils la guerre pour la Russie? C'étaient des Ukrainiens, ils n'avaient qu'à rentrer dans leur pays. Terrible hémorragie pour l'armée russe qui était déjà dans une situation à peu près désespérée. Et l'Atman, il fait la guerre maintenant aux Soviets. Il interdit le passage de l'Ukraine aux troupes russes. Mieux que cela, il demande la paix séparée avec l'Allemagne. Et oui, pourquoi continuer cette guerre? Il n'est pas russe. Et l'Allemagne, alors, oui, accorde la paix par le traité de Brest-Litovsk. Pendant ce temps, alors, la situation en Russie est loin de s'améliorer. Eh bien, en Russie, j'ai dit qu'on était déjà très mécontent du gouvernement. On est encore plus mécontent à la suite de cette séparation qui s'est réalisée. La Finlande et l'Ukraine se sont séparées de la Russie. Ce sera très grave d'ailleurs, il y aura des conséquences terribles. Alors Lénine se dit qu'il faut, demander la paix. On va demander la paix. Et oui, mais tout le monde n'est pas d'accord. Parce que depuis longtemps, on avait enseigné qu'il fallait aider les prolétariens qui se trouvent dans les pays de l'Ouest. Il fallait, pour cela, diminuer le plus possible la puissance de l'Allemagne. Cet impérialisme, voilà ce qu'il fallait abattre. Et ensuite, Alors les prolétaires se révolteraient, ils feraient la révolution. On était partisans de ce que l'on appelait la révolution universelle. C'était l'idée de Trotsky, c'était l'idée de Bouharine. Mais si on faisait la paix, une paix comme une paix immédiate, mais alors on n'aidait pas les prolétaires, on les abandonnait, on leur tournait le dos. Et certains déclarèrent que c'était une trahison, et même que c'était une honte. Et Lénine a cependant demandé cette paix. Et Trotsky, qui était pourtant le ministre de la guerre, il était d'abord ministre des Affaires étrangères, mais ensuite ministre de la guerre, était partisan de la révolution universelle, la révolution dans toute l'Europe. Et alors il était chargé, lui, de signer ce fameux traité de Brest-Litovsk, mais ça le faisait mal au cœur, alors il retardait toujours cette signature. Si bien que Lénine a dû chercher quelqu'un d'autre, et il a nommé Sokolnikov pour signer ce traité. Enfin, il était signé. C'était la paix de Brest-Litovsk. Et beaucoup, un grand nombre, et tout un parti, le parti social-révolutionnaire, était absolument décidé à continuer la guerre. Et il y eut des actes très graves. Par exemple, Blumkin, qui était un social-révolutionnaire, a assassiné un ambassadeur, Mirbach, uniquement parce qu'il était allemand et qu'il estimait qu'on était en guerre. Il disait, on ne reconnaît pas ce traité de Brest-Litovsk. Mais c'est qu'ils étaient nombreux. Et ce fut une époque terrible, la Russie était partagée entre ceux qui avaient voulu la paix et ceux qui avaient voulu la guerre. Mais Lénine savait très bien que c'était une honte de signer ce traité. C'était une honte, mais il pensait au traité de Tilsit, qui avait été signé par Napoléon, imposé par Napoléon aux Autrichiens. Oui, c'était une honte, mais la paix avait permis de se relever. Elle avait permis aux Autrichiens de procéder à de vastes réformes. Et il pense qu'en Russie, il en sera de même. Alors, comme vous voyez, et les choses s'aggravent encore, la situation devient, mais alors, intenable. C'est la famine. Pourquoi la famine? Mais parce qu'on est séparé de l'Ukraine, et que l'Ukraine envoyait toujours le blé en grande quantité. À Moscou, on n'a droit qu'à 30 grammes de pain par jour et par personne. C'est là que Staline se manifeste. Il est toujours Trotsky. Et Trotsky est le ministre de la guerre. Alors il fait remarquer que s'il n'y a pas de blé de provenance ukrainienne, on pourrait tout de même avoir du blé du nord du Caucase. Et si on ne peut pas recevoir ce blé, c'est parce que la route qui permettrait l'acheminement de ce blé, eh bien elle est occupée par des blancs. Et oui, déjà les blancs se répandaient, les gardes blancs, et les cosaques se joignaient aux gardes blancs. Comme on voit, la situation ne cessait de s'aggraver. Mais je l'ai dit, elle prendra des dimensions cataclysmiques. La famine, et ensuite, alors, c'est la guerre civile. D'un côté, il y a Vorochilov, il y a Boudieni, et de l'autre, là-bas, c'est Kolchak avec Denikin. Toute la Russie est divisée. Armée rouge d'un côté, armée blanche de l'autre. Ce serait trop long, bien sûr, d'exposer ces épisodes, mais ce fut extrêmement grave. La Russie était vraiment épuisée. Alors nous arrivons donc vers la fin de l'année 1918, et la population, hélas, on ne peut pas empêcher les gens de parler. On ne peut pas les empêcher de penser. Ils attribuent à ce parti bolchevique tous les malheurs. On commence à se dire, là-haut, la révolution, c'était une belle chose. Oh oui, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Et alors, on regrette beaucoup de choses. On remonte dans le passé, on remonte jusqu'à 1903, quand a eu lieu la fameuse scission entre bolcheviques et mensheviques. On se dit, mais tous les malheurs viennent de la désunion. Mais pourquoi cette désunion? Pourquoi ne s'unirait-on pas? Et il y eut des pourparlers, des entrevues dans les coulisses. Et des bolcheviques rencontrèrent des mensheviks qui étaient partisans d'une union. Mais les mensheviks répondirent qu'ils étaient partisans, eux. Ils ne demandaient que ça, qu'on soit unis, tous, comme des frères. Oui, mais ils posaient une condition. À condition que Lénine et Trotsky soient exclus. C'était beaucoup demandé, parce que tout de même, Lénine, c'était l'âme du bolchevisme, c'était l'âme de la révolution. Et c'est pour Lénine et pour Staline, ce sont des coups terribles. C'est certainement le moment le plus cruel que connut Lénine. Comment lui, l'âme du bolchevisme, lui qui avait organisé la révolution, mais c'était lui qui devait être exclu. Quelle disgrâce! Et il paraît que Lénine a beaucoup médité sur le sort de Robespierre. Oui, Robespierre qui avait atteint le sommet de la gloire, et puis qui ensuite fut traîné par la populace jusqu'à l'échafaud. Il se demandait, mais est-ce qu'un jour mon sort ne serait pas comparé à celui d'un Robespierre? Maintenant, c'est la disgrâce qui m'attend. Et puis après, par la pensée, il passe tous ces ténors en revue. Il se demande, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont me soutenir? Est-ce que je peux réellement compter sur eux? Et il commence à avoir des pensées plutôt sombres. Il se dit, en quoi le talent littéraire d'un Bouharine pourrait-il m'être utile? Et la grande culture d'un Lunatchorski? Et le talent oratoire d'un Zinoviev? Et l'admiration passionnée d'une Alexandra Kollontai? Quant à Trotsky, est-ce qu'il sait s'il peut compter sur lui? Trotsky était un adversaire. Et oui, maintenant il est bolchevique, mais est-ce qu'il peut affirmer que Trotsky lui sera fidèle jusqu'au bout? Mais un homme y apparaît, un homme qui est un vrai titan, un titan inébranlable, c'est Staline. Ah, celui-là, il sait qu'il pourra s'appuyer sur lui, comme sur un bloc de granit, un bloc de granit sans fissure. Oui, parce que c'est un vrai marxiste, il le connaît. Eh bien, certains historiens ont commis une faute en disant que Staline avait été marxiste dès le début de sa carrière politique. C'est faux. Staline n'était pas du tout marxiste au début. Il est né dans un foyer chrétien. Il a fait 5 ans de séminaire, 5 ans au séminaire. Mais oui, il a lu beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de lectures défendues. Mais il n'a pas étudié le marxisme, qui est une doctrine rigoureuse. Il a saisi des bribes de marxisme ici et là. Il était patriote. Il aimait sa Géorgie. Il l'aimait pour sa beauté, ses montagnes grandioses, ses torrents impétueux, sa végétation subtropicale. Et puis, cette terre de Géorgie, mais c'était cette terre qui avait nourri ses ancêtres. C'était en Géorgie que s'était écoulée son enfance et son adolescence. C'était en Géorgie qu'elle avait reconnu, qu'elle avait rencontré les plus courageux des révolutionnaires. Oui, c'était en Géorgie que des jeunes gars avaient préféré mourir sous les tortures plutôt que de le trahir. Mais comment n'aimerait-on pas un tel pays? Eh bien oui, pour un marxiste, il n'y a pas de patrie. Il n'était donc pas un vrai marxiste. Et plus tard, quand il a pris le parti des petits paysans, fils de serfs, qu'est-ce qu'il préconisait? La redistribution des terres. Mais pour un vrai marxiste, la propriété, c'est du vol. Donc il n'était pas encore marxiste. Mais il est devenu par la force, grâce à une force d'âme extraordinaire. Il a refoulé ses convictions les plus profondes. Il a fait taire en lui, il a anéanti en lui toute trace de chauvinisme. Oui, il devient un vrai marxiste. Et plus tard, il sera le grand artisan de la collectivisation des terres, c'est-à-dire l'abolition de la propriété. Et Lénine le sait, il a vu comment cet homme, avec force, une force extraordinaire, a su vaincre des éléments d'une nature hostile, une nature hospitalière, inhospitalière, mais qui a su aussi se vaincre lui-même. Et c'est sur cet homme-là qu'il s'appuiera. Et il va en faire son bras droit. Voilà le secret de l'énigme. Mais c'est sûr que Staline n'est pas plus intelligent que Lunatchersky, il a moins de culture. Il n'a pas la finesse d'un Trotsky, mais c'est l'homme le plus solide, c'est l'homme inébranlable. Et Lénine ne tarde pas d'ailleurs à lui confier les charges les plus importantes. Par exemple, Staline était commissaire aux nationalités. Bon, cela représente tout de même déjà un grand pouvoir. Il régnait sur 65 millions d'individus. Lénine lui confie un second commissariat, c'est-à-dire un second ministère. C'est le commissariat à l'inspection ouvrière et paysanne. Qu'est-ce que c'était que ce nouveau commissariat? Eh bien, Lénine était indigné de voir que dans la bureaucratie russe, il y avait tant d'incompétence et de corruption. Et c'était vrai. Qu'on lise les âmes mortes de Gogol, et on verra ce qui se passait dans les bureaux quand on faisait le trafic des âmes mortes. Mais c'était incroyable ce qu'il y avait, comme corruption. Alors il a voulu créer un nouveau commissariat, et tous les services seraient assurés par des ouvriers. Ah, il avait un grand respect pour la classe ouvrière. De jeunes ouvriers donc seraient chargés d'entrer dans tous les bureaux et de contrôler. C'est grotesque, parce que tout de même des ouvriers à peine et presque analphabètes avaient le droit d'entrer dans tous les bureaux, même ils seraient entrés à l'inspection académique pour contrôler le travail. Bien sûr, c'était grotesque. Mais en attendant, il régnait sur 140 millions d'habitants. Ensuite, Staline fait partie du bureau politique. Le bureau politique, c'était le cerveau même du parti bolchevique. C'était le bureau politique qui créait, qui imaginait. Il était à l'origine de toutes les lois, de tout ce qui se passait. Il faisait partie de ce bureau. Et on sait que c'est Lénine qui avait fait pression pour qu'il soit élu. Ensuite, on a besoin d'un secrétaire général du parti bolchevique. Lénine n'avait pas du tout l'air de vouloir favoriser Staline. Il avait même fait cette réflexion curieuse. Il avait dit, celui-là, ce cuisinier, il nous ferait des mets épicés. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que Lénine n'avait pas du tout l'air de vouloir favoriser Staline. Eh bien, au dernier moment, il fit pression, oui, il fait pression pour que Staline soit élu. Et voilà Staline qui est devenu secrétaire général du parti bolchevique. Mais c'est considérable. Et on lui adjoint deux hommes éminents, Molotov et Kouibichev. Mais c'est incroyable. Et tous les rivaux sont dans la stupeur. Mais comment une chose pareille a-t-elle pu se faire? Mais ce n'est pas fini. Il y avait aussi, à Saint-Pétersbourg, ce qu'on a appelé une commission de contrôle. Cette commission de contrôle, elle s'occupait on peut dire, des petites histoires. Vous savez, les petits peuples, les gens humbles, ils ont toujours l'impression qu'on les ignore. Oui, les grands politiciens font ce qu'ils veulent, mais eux, on ne connaît pas leur malheur, on ne sait pas. Eh bien, c'était très psychologique, ça. On avait créé cette commission de contrôle pour satisfaire le petit peuple. N'importe qui pouvait venir se plaindre de son voisin, se plaindre d'autre chose, mais on l'écoutait. Et il avait le droit de s'exprimer. Et tout était fait au grand jour. Et les gens qui étaient coupables de quelque chose, eh bien, on les blâmait publiquement. Ou bien on procédait à l'exclusion du parti. Eh bien, on l'a affirmé, ce n'est pas Trotsky, ce n'est pas Lunatchersky qui aurait pu s'intéresser à cette commission de contrôle. Mais Staline ne méprisait rien. Les besognes humbles, il ne les méprisait pas. Comment il allait à cette commission? Mais il n'en faisait pas partie, il n'était pas nommé. Mais tout le monde avait le droit d'y aller. Et il écoutait ce qui se passait, il prenait des fois la parole, et on était content, le petit peuple. Mais il était ravi, comment le secrétaire général du parti bolchevique, qui vient, il vient à nos réunions, et des fois il prenait la parole. Et puis alors il y eut des défections, il y eut des gens malades, des gens, enfin, des membres, les membres de la commission. Il y en a qui... Et bien alors c'était Staline. C'était Staline qui prenait tout ce qu'il y avait à faire. Une puissance de travail absolument extraordinaire. Récapitulons, il était commissaire aux nationalités, commissaire à l'inspection ouvrière et paysanne, membre du bureau, secrétaire général du parti bolchevique, et enfin chef, il est devenu le chef de la commission de contrôle. Mais personne n'a jamais eu un tel pouvoir. Et ses rivaux ont compris que tout était perdu pour eux. Ils auraient voulu restreindre son pouvoir, mais quoi faire? Mais c'était l'inébranlable. Et ce n'est pas fini. Oui. C'est fini, combien?
5 minutes.
Eh bien, je n'ai pas parlé d'un trait qui doit couronner tout le reste. Il avait la ruse pour lui. C'était un Asiate. Il avait la ruse perfide, la ruse machiavélique. Oui, j'irais jusqu'à dire la ruse des vampires. Comment font les vampires? Ils attirent par des paroles douces, par des caresses, comme faisait Gilles de Rais. Eh bien, c'est ainsi qu'il faisait, qu'il fera, surtout quand il sera le maître absolu. Il fera tomber dans des souricières, dans des pièges, qui il voudra. Mais c'est surtout au moment de la mort de Lénine, ça vous tenait de le dire, qu'il a usé de ruse. Lénine est mort le 21 janvier 1924. Le 22, le lendemain, Staline lance des messages à toutes les fédérations communistes et puis il annonce le décès à un grand nombre de personnages. Il annonce le décès à Trotsky. Mais il lui fait connaître, oui, la date des funérailles. Il lui donne une date fausse, de sorte que Trotsky ne sera pas là le jour des funérailles. Mais cela va avoir une conséquence considérable. Le dernier jour, là, le 27, c'est le 27 qu'ont lieu les funérailles, il y aura un cortège de plusieurs centaines de milliers de gens. Mais il n'y aura pas Trotsky. Il faut comprendre ce peuple un peu fanatique, des petits paysans, des petits ouvriers, sont venus de très loin pour participer à ces funérailles, mal chaussés, mal vêtus, dans la neige. Et ce cortège, mais il a pris plusieurs heures, et par des températures rigoureuses, et pas de Trotsky. Et pourtant, certains avaient fait courir le bruit que Trotsky aurait des chances de succéder à Lénine. Alors, vous savez, on fait des pronostics, hein. Et oui, qui va succéder à Lénine? Certains disaient que Trotsky avait quelques chances, parce que il y avait eu des entrevues secrètes entre Lénine et Trotsky, oui, les derniers temps. Avant la mort de Lénine, c'est vrai, il y avait eu un rapprochement. Et Lénine avait témoigné beaucoup de sympathie à l'égard de Trotsky. Oui, ben, le jour des funérailles, il n'y avait pas de Trotsky. Et cette absence, on peut le dire, a porté vraiment préjudice à la renommée de Trotsky. Vous voyez, je n'insiste pas plus. Alors il régnera, il sera le maître absolu. Il faudrait dire encore comment, il y aura encore bien d'autres choses, mais enfin, il est le maître absolu, et il va régner pendant 29 ans grâce à la Tchéka. C'est le sujet de la prochaine conférence. Tchéka, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas un mot, c'est l'assemblage de deux lettres. Il n'y a pas de lacré. deux lettres de l'alphabet cyrillique, Tché et K. Dans la langue russe, l'adjectif est toujours placé, pardon, l'adjectif est toujours placé devant le nom. Alors c'est Tché, première lettre de l'adjectif, Chrezvichaynaya, qui signifie extraordinaire. K, première lettre du nom, Kamisia, qui veut dire commission. La Tchéka, c'est une commission extraordinaire instituée pour combattre la contre-révolution, le sabotage et toute falsification. Et c'est grâce à la Tchéka qui régnera 29 ans.
Eh bien, nous vous écouterons la fois prochaine. Je tiens à vous dire au nom de tous vos auditeurs que nous sommes à chaque fois surpris, émerveillés, abasourdis par cette mémoire prodigieuse. Vous n'avez pas une note et tous les noms, toutes les dates se pressent sur vos lèvres, c'est extraordinaire. Donc nous reviendrons pour la Tchéka bientôt. Merci madame.